Bonsoir mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 36. Et nous allons voir l'expérience de deux personnes, et en particulier d'une. Luc chapitre 7, verset 36. Combien nous bénissons Dieu d'avoir permis que ces histoires soient relatées dans les Saintes Écritures. Nous pourrions ne pas les avoir. Et Dieu a voulu que nous les ayons parce que nous en avons besoin. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et tout le monde peut dire, « Amen. » Vous la trouvez pas belle cette histoire ? Vous la connaissiez ? Vous l'avez déjà lue ? C'est une histoire que l'on connaît presque par cœur. Quand on découvre le Seigneur, on lit les évangiles, les quatre premiers évangiles. Donc c'est une histoire qu'on connaît, pour ainsi dire, de suite. Mais que d'enseignement ! Et ce soir, il se pourrait que quelqu'un soit vraiment concerné par cette histoire. Moi, ce qui m'a le plus, je dis bien, choqué dans cette histoire, c'est que cette femme n'a pas prononcé un mot. Elle n'a pas parlé. Ce qui nous prouve une chose, c'est que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Vous savez, l'homme, il a la caractéristique de regarder aux apparences. C'est écrit, c'est d'ailleurs, qui c'est qui l'a dit dans la Bible ça ? Que l'homme regarde à ceux qui frappent les regards, tandis que Dieu regarde au cœur. C'est écrit où ça ? C'est bien. C'est lorsque, vous savez, Dieu envoie Samuel chercher le remplaçant de Saül, et que quand Samuel, le grand prophète, voit Éliab, le frère aîné de David, il dit, ah c'est lui, il ressemble à Saül, ça doit être lui. Et Dieu dit non, Dieu l'a rejeté. Donc Dieu déjà voyait l'orgueil qu'il y avait dans le cœur de ce gars, même si aux yeux du grand prophète, vous voyez comme quoi, même les hommes de Dieu peuvent se tromper, et c'est normal que les hommes se trompent. Dieu regarde au cœur. Ce soir, Dieu regarde à votre cœur. Est-ce que ça vous rassure ? Ben oui, c'est bien. Dieu regarde, il sait ce qui se passe dans votre cœur. Le fait que dans cette histoire, cette femme n'ait pas prononcé un mot, elle n'a pas prononcé un seul mot, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle n'a pas parlé et elle est repartie dans sa maison, pardonnée et en paix. Et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs pour chacun de nous, que nous repartions tout à l'heure chez nous en paix. Parce que vous savez, il y a les réunions, c'est bien les réunions.
Est-ce que c'est bien les réunions? Oui, on se fait du bien, il y a la communion fraternelle, on partage plein de choses qui sont bibliques. Dans l'Église primitive, par exemple, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc c'était quand même quelque chose d'important. Mais dimanche, mardi dernier, on a vu Jésus, lui, qui a touché un homme. Vous vous rappelez, il a touché ce fameux lépreux. C'était après la réunion. Hein? Est-ce que c'était pendant la réunion ou après la réunion? Il hésite, Michael. C'était après. Jésus a prêché le fameux sermon sur la montagne. Et après, il est dit, après, les gens, ils avaient été touchés. Mais les gens étaient touchés. Mais il n'y en a qu'un qui s'est vraiment approché et qui a pu être touché par Jésus. Donc, ça nous indique que c'est quelque chose qui s'est passé après la réunion. Après nos réunions, nous pouvons avoir des démarches spirituelles comme nous pouvons ne pas avoir de démarches du tout. Il sait, le Seigneur, ce qui se passe. Il sait comment on est vrai. Vrai ou sincère? C'est quoi le plus important? Tiens donc, c'est un sujet qu'on pourrait avoir, ça. C'est quoi le plus important? La sincérité ou l'amour de la vérité? Parce que des fois, on a... Oui, mais moi, je suis sincère. Je suis sincère. Mais Dieu nous demande d'être sincère ou Dieu nous demande d'aimer la vérité? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas du tout la même chose. Dieu nous demande d'aimer la vérité. Il y a la Bible parle de ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. Il y a plein de gens, ils sont sincères. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont super sincères. Ah, mais moi, je sais, écoutez-moi, c'est bon, je suis bon. La religion, vous savez, moi, j'entends, je sais comment ça marche. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Les gars, ils sont sincères. Dieu est bon, moi, j'irai au paradis. Si Dieu est bon, ben, ça va bien se finir. Donc, j'irai au paradis. Ça, c'est la sincérité. Mais est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Pas du tout. Mais voyez la sincérité et le critère de la vérité, c'est pas la sincérité. Le critère de la vérité, c'est la parole de Dieu. Par exemple, la Bible dit que la bonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait la bonté de Dieu? Elle nous pousse à dire tout va bien, Dieu est bon, ça va bien se terminer, comme dans les films, vous savez, ça se termine toujours bien, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La bonté de Dieu, nous... Alors, aidez-moi. La bonté de Dieu, nous. Miguel. Bon, là, ça va pas. Alors, on va le lire, tiens. Alors, c'est dans Romains, chapitre 2. C'est important. C'est pour que vous compreniez bien que même si Dieu regarde au cœur, ce n'est pas une question de sincérité. Vous connaissez ce petit proverbe, là, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous le connaissez, ce proverbe? Et voilà, c'est exactement ça. Dans Romains, au chapitre 2. Voilà, vous avez l'exemple type de la différence entre l'amour de la vérité et une véritable sincérité. Vous voyez les gens sincères? Ouais, Dieu est bon. Eh bien oui, Dieu est bon, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Romains chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse? Vous avez vu la différence? La sincérité fait, oh, la bonté de Dieu, Dieu est bon, ça devrait bien se finir. Les gens qui aiment la vérité, ils vont être touchés par la parole, et la bonté de Dieu va les pousser à la repentance. Et on pourrait prendre tous les exemples. C'est pour ça que le critère de la vérité, c'est pas la sincérité, c'est la parole de Dieu. Faites attention à votre sincérité, moi je le vois souvent. Et ce sont ces gens-là qui n'arrivent jamais à la bénédiction parce qu'ils vivent de sincérité, ils s'imaginent que c'est ce qu'ils pensent qui est la vérité. C'est pas ce que nous pensons qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Et la bonté de Dieu, elle nous poussera à la repentance. Il faut bien faire la différence, c'est pour ça que Jésus il savait ce qui se passait dans le cœur de ce pharisien. Pourtant, ce pharisien, c'était quand même quelqu'un de bien. Est-ce que c'était bien d'inviter Jésus à manger dans sa maison? Bon, parce que tous les pharisiens n'ont pas fait pareil. Hein. Il sortait du lot quand même, celui-là. Vous ne trouvez pas? Sérieusement, quand même, est-ce que c'était bien d'inviter Jésus à manger dans sa maison? Oui, mais lui, il était empêtré dans sa religiosité, et c'est ça le drame. Comme on peut être empêtré dans sa sincérité, moi j'ai connu des gens de telle obédience, de telle dénomination, qui ne s'en sont jamais sortis, et pourtant ils aimaient Dieu, ils l'auraient, entre guillemets, invité à manger dans sa maison. Mais leur sincérité les a piégés. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet homme, peut-être qu'il faisait partie de de ces nombreux sacrificateurs dans le livre des Actes, il est dit « une foule de sacrificateurs obéissait à la foi ». Donc après le réveil de Jérusalem, il y a certainement bien beaucoup de sacrificateurs, de pharisiens qui se sont convertis, parce que les gens ils sont quand même touchés par la grâce de Dieu. Ça ne m'étonnerait pas qu'il en fasse partie. Mais faites bien attention à ne pas vous fier à la sincérité. Moi je connais beaucoup de gens qui ont terminé la vie dans le péché, dans la misère, parce qu'ils étaient, ils étaient sincères. Mais je vous dis, ce n'est pas la sincérité qui va nous rendre service. L'amour de la vérité. D'ailleurs, si ce soir nous sommes ici, je pense, c'est que parce que nous aimons la vérité. Et ça, ça plaît au Seigneur. Alors, le Seigneur, il connaît ce qui se passe dans les cœurs. Il savait ce qui se passait dans le cœur de Simon le pharisien. Il savait très bien ce qui se passait dans le cœur de cette femme qui, Dieu a voulu justement qu'on le comprenne bien, puisqu'elle n'a pas prononcé un mot. Alors, je vous invite, avec votre concordance, à recenser tous les textes où il est parlé du cœur. C'est impressionnant. Moi, j'ai commencé à le faire ce matin. Comme aujourd'hui, tout le monde a, pour ainsi dire, Internet, vous tapez concordance biblique, vous tapez tac le mot cœur, et vous allez voir le nombre de textes dans la Bible où il est parlé du cœur. C'est impressionnant tout ce qui peut se passer dans le cœur d'un homme. Il s'en passe des choses dans le cœur d'un homme. J'en ai relevé 5 ou 6 de mauvais. La guerre est dans son cœur. Tiens donc, est-ce que notre cœur peut être en guerre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais oui, bien sûr. Il porte des idoles dans son cœur. Parce que quelqu'un peut dire, ah mais moi j'ai pas d'idole. Dans ma maison, vous pouvez venir, il n'y a pas de statue en bronze, en pierre, il n'y a pas la statue de la Sainte Vierge, il n'y a pas la statue de Saint Antoine, parce que je perdais mes clés. J'ai entendu un jour, si tu perds tes clés, il te faut prier Saint Antoine. Parce que c'est lui qui t'aidera à retrouver les clés. Vous savez, il y a chacun sa spécialité. Enfin, c'est ridicule. Mais faites tout ça pour vous dire qu'on peut ne plus avoir d'idole dans les coins de sa maison. Mais la Bible parle des idoles qu'il peut y avoir dans le cœur, des choses qui prennent vraiment la place de Dieu. Jésus dit, mais un homme peut commettre l'adultère dans son cœur, à cause de la convoitise. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ailleurs, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux. Ils étaient furieux dans leur cœur. Leur cœur est éloigné de moi, etc. Enfin, faites-le. Faites-le pour vos cultes personnels. Je ne sais pas comment vous faites vos cultes personnels, mais ça peut être une très très bonne chose de voir tout ce qui peut être désigné dans le cœur de l'homme. L'autre frère parlait tout à l'heure de ce qui se passait sur le chemin d'Emmaüs. Notre cœur brûlait au-dedans de nous. Il y avait quelque chose dans le cœur de ces hommes. Il n'y a que Dieu qui le voyait. Eux, ils devaient marcher. Mais notre cœur brûlait au-dedans de nous. Et ça les a poussés à demander à Jésus de rester avec eux. Et ça les a amenés à faire une autre expérience, parce que leur cœur brûlait pendant l'explication que Jésus leur donnait. Ça vaut la peine pendant une réunion. Si notre cœur commence à bouillonner un petit peu, ça vaut la peine de poursuivre la réunion et de dire « Seigneur, je veux que tu restes avec moi, parce que ce n'est pas terminé le boulot. Il y a des choses à faire, à continuer dans le plus profond de mon âme. » Nos cœurs purifiés par la foi. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes une lettre écrite dans votre cœur. La crainte était dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui sait si on a de la crainte, du respect. Oui ou non? Vous savez, je peux parler, moi, je peux même faire 3 études, 10 études de suite sur la crainte de Dieu. Dieu pourrait me dire, mais ce n'est pas pour ça que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui sait. Ce n'est pas parce que je vais prêcher bien sur la crainte de l'Éternel que je suis rempli de crainte. Ils ont le cœur rempli de miséricorde, en parlant de certains chrétiens. Ça serait beau hein, que Dieu dise, ah, Saint-Agne, les chrétiens, moi je les connais. Ils ont le cœur rempli de miséricorde. C'est pas bien ça? Vous aimeriez pas que Dieu dise ça de vous? Eh bien, j'espère. Hein. La loi de Dieu dans son cœur. Enfin, recensez les versets. Il y en a des centaines. Ça peut nous permettre, à chacun de nous, eh bien, de voir exactement que dans le cœur, il s'en passe des choses. Dans 1 Roi 8:39, ne le cherchez pas. Seul Dieu connaît le cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur, qui connaît votre cœur mieux que vous-même. Vous vous connaissez, vous? Vous vous connaissez bien? Est-ce que vous vous connaissez? Allez, dites, répondez-vous. Est-ce que vous pensez vous connaître? Moi, je suis sûr qu'on ne se connaît pas vraiment. Moi, une fois, je me souviens, j'avais dit, parce que j'avais vu un pasteur qui avait fait un truc qui n'était pas bien. Et j'ai dit à ma femme, ah, mais franchement, moi, je t'assure, jamais je ferai pareil. 15 jours après, j'ai fait la même erreur. J'en ai eu honte. J'ai dit, mais mon pauvre Gérard, tu ne te connais pas vraiment. Pour vous dire combien on est loin de se connaître vraiment. Alors, mais ce soir nous sommes là, Dieu regarde au cœur, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Bon, une chose est sûre, c'est qu'il nous sera fait selon notre foi. Toujours. Vous connaissez un principe, c'est un principe. Dieu regarde au cœur, c'est vrai, qui doit être en conformité avec la vérité, mais il est clair qu'il nous sera fait selon notre foi. C'est un principe immuable, ça ne change jamais. C'est cette foi qui fait agir Dieu. Parce que vous pouvez dire ce soir, oui, ce que j'ai entendu, c'est biblique. Tout ce qui a été dit, ça tient debout, on peut le filtrer, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je veux que mon cœur soit édifié dans une foi vivante. C'est ça qu'on veut, une foi vivante. On ne veut pas une foi intellectuelle, une foi théologique, une bonne foi doctrinale, une religion morte, comme c'était le cas dans beaucoup de pharisiens, à qui Jésus a dû traiter d'hypocrite. Vous vous rendez compte? Jésus a dû traiter les pharisiens d'hypocrite. Il l'a fait parce qu'il fallait que ce soit le déclencheur pour les éclairer. Dieu ne traite pas quelqu'un d'hypocrite pour le plaisir de l'humilier. Il nous humilie pour nous éclairer. Donc, que Dieu augmente notre foi. C'est pour ça qu'on est venu ce soir dans sa maison. Alors, cette histoire, elle est belle, cette histoire. Moi, ce matin, je la méditais, je la lisais, je la relisais. Et je me dis quand même, quelle grâce de voir Jésus intervenir dans cette affaire. C'est quand même quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Un pharisien a été interpellé par ce que Jésus faisait, et il s'est dit quand même, moi il faut que je discute avec lui. Et il l'invite dans sa maison. Bon. Si Jésus était là sur la terre, si Jésus était de passage physiquement à Toulouse, est-ce que vous l'inviteriez à manger? Alors est-ce que vous l'inviteriez? Qui l'inviterait à manger? Qui c'est qui dirait mais moi, c'est moi qui le prends. Je regrette, j'étais au courant, je l'avais pris avant vous. Mais quelle histoire merveilleuse. Alors cet homme, il est là, puis tout d'un coup, paf, il se passe ce qui se passe. Il ne s'attendait certainement pas à ce que cette femme qui avait poursuivi un petit peu la situation rentre dans la maison. Elle a calculé son coup. Est-ce qu'elle a bien fait, elle aussi? Ouais, elle a bien fait. Bon, mais lui, certainement, ne s'attendait pas à ce petit désordre. C'est clair. Mais il faut comprendre une chose. Dieu a voulu que cette histoire soit dans la Bible, parce qu'il y a des milliers de choses. C'est l'apôtre Jean qui dit, si on avait voulu écrire tout ce que Jésus a fait, on ne pourrait pas le contenir. C'est une façon de parler, parce que sur une disquette aujourd'hui, vous pouvez mettre tout ce que Jésus a fait. Mais c'est la preuve que tout ce que Jésus a fait n'est pas là dans le Saint-Livre. Mais ce qu'il y a dans le Saint-Livre, c'est pour nous. C'est pour que l'on puisse imiter la foi de cette femme. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Imiter la foi et la persévérance de ceux qui héritent les promesses. Donc cette histoire que nous avons lu, nous pouvons la vivre, nous. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement le but de cette soirée. C'est-à-dire, Monsieur Gault nous enseigne un petit peu en ce moment l'évangile de Luc. Non, il faut que je puisse dire, mais cette histoire, elle a été écrite pour que moi je la vive, Dieu ne faisant pas de favoritisme, n'importe quel homme sur la terre peut reproduire cette histoire. Alors, ça part sévèrement, parce que vous avez vu ce pharisien, il regarde ce qui se passe, il est là, il est chez lui dans sa maison, il regarde Jésus qui laisse faire cette femme, et vous avez vu ce qu'il dit, on relit quand même le verset qui nous intéresse, qui est important, au verset 39, le pharisien, il pense quelque chose, dans son cœur, tout ça, il n'y a pas de parole, peut-être les serviteurs servaient à manger, etc., il parlait de choses et d'autres, mais voilà, le pharisien qu'il avait invité, voyant cela, dit en lui-même. Oui, ça se passe dans le cœur. Comme peut-être ce soir, vous vous dites certaines choses dans votre cœur. Mais Dieu les entend. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit? Si cet homme était prophète, il est estomaqué, tiens, il a fait des miracles, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'il était prophète, il saurait de quelle espèce. En plus, le mot qui a été utilisé, c'est un peu sévère, je trouve, non? Quelle espèce, il avait qu'à dire de quelle race elle est, en qualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite, ça frise presque l'insulte. Il saurait qui est cette femme et quelle est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Voilà, paf. Est-ce que c'est gentil ça? C'est pas trop gentil quand même. Mais cet homme, il est religieux, on l'a enseigné, d'ailleurs c'est pour ça que la religion dégoûte tout le monde. Parce que ça nous éloigne des pécheurs. Alors, il faut s'éloigner du péché. C'est pas la même chose. Jésus était l'ami des pécheurs, mais il se tenait éloigné du péché. Et je pense que beaucoup de chrétiens feraient bien d'en prendre de la graine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, au nom d'être amis avec les pécheurs, se sont mis à cautionner le péché. Je pense qu'il faut faire très attention. On doit être l'ami des pécheurs. On ne doit pas les juger. Mais on ne doit pas aimer le péché. Et je crois que ça, ce sont des choses qu'il faudrait quand même réfléchir, auxquelles il faudrait réfléchir. Jésus, voyant ce qui se passait dans le cœur de ce pharisien, aurait pu lui dire, attends, parce que nous on est habitués à la tendresse, à la délicatesse, à la douceur, à la politesse du Seigneur. Est-ce que Jésus aurait pu lui dire, écoute, non mais tu sais pas, mais tu es de la même espèce qu'elle, hein? Est-ce que Jésus aurait pu lui dire ça? Est-ce qu'il aurait péché en disant ça? Non. Jésus aurait pu dire, écoute, tiens-toi à carreau, parce qu'écoute, tu es exactement pareil qu'elle. Peut-être pire. Parce que de toute façon, vous êtes tous des pécheurs. Et c'est à cause de gens comme elle et comme toi que je vais devoir aller sur le bois de la croix. Est-ce que Jésus aurait pu lui dire ça? Oui, il aurait pu. C'est pour que vous compreniez bien la miséricorde du Seigneur. Parce que franchement, il aurait pu le dire. Et ce matin, parce que vous savez, quand j'étudie un texte, je me dis, mais qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? Il aurait dit, mais vous êtes tous pareils. Mais il aurait pu dire, mais franchement, il y en a assez. Il y en a assez, il aurait pu le dire. Vous êtes tous pareils, vous êtes tout le temps en train de critiquer, de juger, mais vous êtes tous des pécheurs. Il aurait pu rentrer dans une sainte colère, franchement. Ça aurait été justifié. On n'avait absolument rien à dire. Parce que c'est vrai que nous sommes tous des pécheurs. Il aurait pu parler comme ça. C'est comme l'autre jour quand je vous disais qu'à la femme adultère qu'on a amenée, quand Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Une fois que tous sont partis, il aurait pu dire à cette femme, mais moi je peux te lapider. Et je vais le faire. Parce que moi je suis sans péché. Est-ce que Jésus avait le droit de la lapider? Oui, puisqu'il était sans péché. Et il ne l'a pas fait. Vous voyez, c'est pour que vous compreniez vraiment la miséricorde. Parce que des fois on parle, Dieu nous aime, bon c'est bien, on sait Dieu nous aime. Mais je pense qu'il faut faire la différence entre l'amour et la miséricorde. D'ailleurs on a lu dans Romains qu'à cause de son amour, de sa longanimité. Vous avez lu avec moi? Vous l'avez lu moi? Longanimité. Longanimité, vous regarderez dans le dictionnaire. Vous rechercherez vous-même. Vous ne l'entendrez pas souvent au journal télévisé. Mais regardez dans un dictionnaire ce que signifie la longanimité et vous verrez ce à quoi ça correspond. Donc, cette femme, elle a besoin de paix. Parce qu'elle s'est approchée du Seigneur. Le pharisien l'a invitée. Je ne sais pas de quoi il avait besoin. Lui aussi, il avait besoin de paix de toute façon. Il avait besoin de pardon, lui aussi. Cette femme, elle savait qu'elle était loin de Dieu. C'est pour ça qu'elle a fait une démarche qui a vraiment plu au Seigneur. Vous avez vu ce qu'elle a fait. Et ce soir, je ne sais pas quelle est votre démarche. Est-ce que votre démarche, notre démarche, c'est juste de venir auprès du Seigneur, d'écouter, de suivre, d'accepter, de voir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Vous vous rappelez, plus loin, là, dans le chapitre 8, vous savez, il y a la fameuse femme qui a la perte de sang depuis 12 ans. Parce que ce soir, je voulais parler, mardi dernier, j'ai parlé de ceux qui ont été touchés par Jésus, mais ce soir, je voulais juste vous parler de ceux qui ont touché Jésus. Et vous savez que dans le chapitre 8, on peut le lire, dans le chapitre 8, il y a une femme qui se trouve là, dans un cortège, tout le monde suit Jésus, c'est entre guillemets, excusez-moi, mais la fête, il y a quelque chose de particulier. Luc chapitre 8, verset 43, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Donc on a affaire à deux femmes qui ont touché Jésus. Comme tous en défendaient, Pierre dit à ceux qui étaient avec lui « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Je vous ferai remarquer que Jésus ne lui dit pas, ma fille, je t'ai guérie, la puissance du Seigneur t'a guérie. Il met la bénédiction sur sa part à elle, ta foi t'a sauvée. C'est pour ça que je vous disais au début que c'est par la foi que nous obtenons cette bénédiction de Dieu. Est-ce que Jésus, encore une fois, pour montrer qu'il est le Tout-Puissant, est-ce qu'il aurait pu dire « Ma puissance t'a guéri » Est-ce qu'il aurait pu le dire? Mais oui, et il n'y avait rien à redire, c'était très très bien. Mais voyez, encore une fois, il nous montre le chemin. Et il dit « Ta foi t'a guéri ». Donc deux femmes qui sont en train de nous enseigner, en fin de compte, par le Saint-Esprit, que c'est une chose d'être dans la maison de Simon, d'être là dans ce beau cortège où le Seigneur parlait, agissait, mais il y a qu'elle qui a été bénie. Alors les autres pouvaient dire, mais ouais, moi j'ai vu un truc, hier si tu savais ce que j'ai vu, j'ai assisté à une fête, à une scène, Une femme, si tu savais comment Jésus lui a parlé, elle était toute tremblante. C'était merveilleux ce qu'elle a vécu. Mais c'est exactement ce que nous devons vivre. Ou nous sommes spectateurs de ce que Dieu fait dans la vie des autres, ou alors notre foi nous amène à toucher le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une belle exhortation. Est-ce que vous croyez? Bien sûr que Dieu peut vous toucher. Ça, c'est sûr que si nous nous approchons de lui, il nous touchera. Mais nous aussi, par la foi, nous pouvons être amenés à toucher le Seigneur. Et ça, c'est une soif qui se veut. C'est bien les réunions, on a de bonnes réunions, c'est vrai, ça fait du bien. Chaque fois, c'est une bonne exhortation. Ouais, c'est intéressant, c'est biblique, ce qu'il dit le pasteur, c'est bien. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on poursuive notre démarche et qu'on dise, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est extraordinaire. Moi, je pense que même si c'était rien passé ce jour-là dans la maison du pharisien, c'était déjà une grande bénédiction d'avoir mangé avec lui. Mais cette femme, elle voulait le toucher. Et je vous pose la question, et Dieu qui regarde au cœur va le voir. Parce que Dieu regarde au cœur, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut toucher le Seigneur? Tout est là. Dieu le voit. Dieu voit si c'est vrai, Dieu voit si c'est pas vrai, Dieu voit si c'est profond, Dieu voit si c'est superficiel, Dieu voit juste si c'est sentimental, si c'est sincère, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ou si c'est vrai. Mais moi aussi, je veux te toucher, Seigneur. Je veux que tu t'arrêtes dans ma vie. Vous avez vu quand Pierre va dire, écoute Seigneur, tout le monde te touche, et tu demandes qui t'a touché? Quelle image des gens qui tous les dimanches viennent à l'église, on touche le Seigneur, tous les dimanches, vous comprenez ce que je veux dire? Dès qu'on vient à l'église, dès qu'on prend le pain et le vin, dès qu'on se retrouve dans la communion fraternelle, dès qu'on chante des cantiques, de bons cantiques, dès qu'on prend le pain et le vin, tout ça, on touche le Seigneur. Oui, mais est-ce qu'il s'arrête dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre que j'ai une foi vivante? Ou est-ce que je reviens après chez moi et je retombe dans ma religiosité, dans ma routine, dans mon train-train? Je sais, oui, tiens, c'est vrai, peut-être que dimanche, on aura un témoignage de quelqu'un qui a été guéri. Ah, c'est beau, le Seigneur a guéri quelqu'un. Mais peut-être moi, j'ai besoin de guérison. Alors, est-ce que Jésus, il plouffe? Vous connaissez les enfants quand ils plouffent? Pour ça sera toi qui sortira la poubelle. Ça marche comme ça avec Dieu? Ou est-ce que Dieu regarde au cœur? Et que quand Dieu regarde au cœur, il voit cette femme. Moi, je vous dis, cette histoire, je vous avoue franchement, elle m'a bouleversé parce que cette femme, elle n'a rien dit. Alors, c'est vrai qu'il y a cette histoire, vous avez vu, il y en a un qui doit, comment ça s'appelle, 50 deniers, 500 deniers, ça correspondait à peu près à un an et demi de travail. Ça correspond à un gros salaire quand même, un an et demi. Regardez votre salaire, mettez un an et demi de salaire. Et l'autre, un mois et demi de salaire. Bon, vous voyez, ça fait une somme, je ne sais pas, mettons 30 000 euros et 3 000 euros, voilà, à peu près. Et tous les deux ont la dette remise. Et ça indique que nos vies peuvent être plus chargées que d'autres, à cause du péché. Il y a des gens, on dit oui, le péché, on est tous pécheurs, d'accord. Mais je pense que certains sont plus chargés que d'autres. Et que Dieu pardonne tout, que son nom soit béni. Il pardonne tout. Mais il y a une façon de l'inviter. Il y a une façon de penser, il y a une façon de lui parler, il y a une façon de vivre dans la vérité, il y a une façon de se comporter qui va lui plaire. Je vous dis, cette femme, elle n'a pas dit un mot, mais il n'y a pas besoin de parler pour s'exprimer. Il y a un verset qu'on va lire, que j'aime beaucoup, mais vraiment que j'aime beaucoup. Parce qu'il m'a servi à une époque. Et dans le psaume 6, le verset 9. Lisons-le ensemble. C'est un verset, moi je vous assure, qui m'a parlé. Mais parlé de chez parlé, comme on dit. Psaume 6, verset 9. Ce n'est pas la première partie, c'est la deuxième partie du verset. La première partie, elle est, bon, c'est un commandement. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, ça c'est sûr que... Ça c'est clair. Mais c'est la deuxième partie. Car l'Éternel entend... Qu'est-ce qu'il entend? Quand on crie, la voix de mes larmes. Moi, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Sérieusement, ça ne vous touche pas? Nous, quand quelqu'un pleure, on va lui dire, mais ne pleure pas. Vous savez, des fois, on n'est pas dégourdi. Pleure pas, alors que ça fait du bien de pleurer. Franchement, des fois, on dit à quelqu'un, mais on devrait au contraire le laisser pleurer des fois. Mais parce qu'on ne sait pas parler aux gens. On n'a pas la pédagogie toujours. Alors, on est maladroit. Mais Dieu, il entend nos voix. Et cette femme, elle pleure. Vous l'avez vu avec moi. Vers chapitre, Luc chapitre, c'est important. Mais Dieu sait à quoi ça représente, verset 38. Elle se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle parlait. Vous savez, les larmes, quand on pleure, ça veut dire quelque chose. Dieu entend la voix de nos larmes. Cette femme, moi, je vous assure, cette histoire, elle m'a presque fait pleurer, mais de joie. Parce que ça rassure qu'il n'y a pas besoin de parler, de s'exprimer pour parler. Des fois, on a besoin de parler, mais des fois, on n'a pas besoin de parler. Puis ça dépend des caractères, ça dépend des personnalités. Cette femme, elle a rien dit. Quelqu'un aurait pu dire à la sortie, mais attends, Jésus l'a pardonné, Jésus l'a dit, va en paix, elle n'a pas dit un mot, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Mais vous savez, ce soir, vous n'avez pas besoin de vous exprimer en haute voix pour repartir en paix. Vous n'avez pas besoin de vous exprimer en haute voix pour repartir pardonner. Vous devez être vrai et dire, Seigneur, je vais te toucher. Alors peut-être la réunion va s'achever dans 5 minutes, mais vous pouvez la poursuivre chez vous. Et dire, Seigneur, cette affaire, elle est sérieuse. Si tu as touché, si cette femme t'a touché, eh bien moi aussi je peux te toucher. Et je vais te toucher. Ça me prendra peut-être une heure après, en rentrant. Mais peut-être que d'aller sur Facebook, regarder comment va Pierre, Paul, Jacques et Fernandette. Eh bien, moi, je vais m'approcher du Seigneur. Je ne suis pas contre Facebook. Mais quand je vois ce que certains me disent, qui sont capables de passer 4 heures, 5 heures, 6 heures sur Facebook, je pense que si nous passions un peu plus de temps volontairement, joyeusement, à nous approcher du Seigneur et dire, bon, j'ai peut-être pas beaucoup de parfum, mais dans mon cœur, il y a un feu qui... Il y a quelque chose qui... J'ai besoin de te toucher. Si Jésus s'est laissé approcher par cette pauvre femme, si Jésus s'est laissé toucher par cette femme qui était impure, parce qu'en plus, elle avait une perte de sang, quand vous regardez la loi, je peux vous dire que les gens qui avaient une perte de sang, ils n'avaient pas intérêt à s'approcher des religieux, etc. Jésus aurait pu dire, écoute, dégage, parce que toi, tu as une perte de sang, là, ça me dégoûte. Est-ce que Jésus aurait pu le faire? Eh oui, il aurait pu. Et là, on leur dit, ah, il connaît, il savait, oula, il est scrupuleux par rapport à la loi. Non, le Seigneur, on peut s'approcher de lui. Je ne sais pas comment vous êtes, si vous êtes en vrac, si ça va, si ça ne va pas. Il le sait, le Seigneur, si ça ne va pas. Mais c'est pas, il y a des gens, oh non, ça ne va pas, je m'approcherai de Dieu quand ça ira mieux. Mais ça risque d'aller mal, justement. Vous voyez, c'est ça la sincérité. Si ça ne va pas, approchez-vous du Seigneur. N'attendez pas que ça aille mieux, parce que ça risque de ne pas aller mieux, justement. Ça risque de s'aggraver. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus en pleurant, et je peux vous dire que 3 semaines après, ils étaient endurcis comme ce n'était pas possible. Parce qu'on ne sait pas les épreuves qu'on va traverser. Il faut être sérieux. On ne sait pas les épreuves qu'on va traverser. Donc, ça vaut la peine de dire, mais moi, je veux le toucher. Je m'attends à ce qu'il pose sa main sur moi, mais moi, je vais le toucher. Et cette histoire, je vous dis, elle est vraiment formidable. Cette femme, elle est rentrée, elle a pleuré, elle a surtout pleuré, elle a répandu, elle a essayé, ça devait être beau quand même à voir. Et puis elle est partie. Mais elle s'est entendue dire, femme, ta foi t'a sauvée. Non, ça c'est la femme à la farte de sang. Si, femme, ta foi t'a sauvée. En plus, elle ne s'est pas approchée que pour le voir. Cette démarche sans parole était une démarche vraiment spirituelle. Vous avez vu comment ça se termine? Luc 7, 50, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ah, je le répète, il ne dit pas ma puissance t'a sauvée, ma toute puissance. Le Seigneur t'a sauvée. Il dit ta foi. Est-ce que vous comprenez notre participation à la bénédiction? Vous le comprenez, mes frères et sœurs? Il y a trop de gens qui attendent superstitieusement. Ils viennent à l'imposition des mains. Bon, ils ont raison. Je suis pour l'imposition des mains. Mais ce n'est pas ça, la foi. C'est vrai qu'à l'imposition des mains, moi, je crois que Dieu guérit. Moi, je crois que Dieu guérit. On l'a souvent vu. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais à Montauban. Pendant que je prêchais, il y a une mémé qui se lève. C'était pas comme là, si je prêchais qu'une femme se lève. Elle se lève, elle se lève. Alors je fais signe au pasteur. Et il me dit, c'est pas grave. Alors moi, je lui pose la question, madame, l'imposition des mains, c'est tout à l'heure. Elle me dit, monsieur le pasteur, j'ai été guéri pendant la réunion. Alors je dis, mais c'est bien. Béni soit Dieu. Elle se levait pour témoigner. Pendant la guérison, pendant la réunion, elle avait été guérie. Vous croyez que Dieu peut le faire? Ça gêne pas le Seigneur? Mais moi, je pense qu'on a une foi un petit peu compliquée. Dieu entend nos cœurs. Bon, ça me rassure, ça. Tout à l'heure, peut-être que sous la couette, vous allez prier. Est-ce que Dieu entend sous la couette? Eh ouais, c'est pas une bénédiction, ça? Moi, je peux vous dire que Dieu entend sous la couette. Parce que je peux vous dire que beaucoup de mes prières, quand je pleurais, je me souviens. Vous savez, on le sait quand les larmes coulent sur le front, là. Ça me rappelle des souvenirs, mais des bons souvenirs aujourd'hui. Parce que j'ai vérifié que le Seigneur, il entend tout. Et même la voix de nos larmes. Comme un pasteur l'a écrit dans un bouquin, les larmes, ce sont des paroles liquides. Et j'avais bien aimé cette annotation. Oui, et c'est vrai, ce sont des paroles liquides. Alors, qui ce soir dit, mais moi je voudrais refaire cette expérience. Vous n'avez pas besoin de répondre à haute voix. Hein? Le Seigneur, il voit vos cœurs. Peut-être que vous allez rentrer chez vous et dire, mais moi, je prendrai un peu plus de temps. Je veux le toucher. Croyez-moi, vous pourrez le toucher. Il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le. Et il est prêt, le Seigneur. Vous rentrez chez vous, vous prenez votre Bible. Seigneur, je veux te toucher. Il va le voir, le Seigneur. Vous savez, je crois que ça doit lui plaire, ça. S'il a voulu que cette histoire soit dans la Bible, que la femme à la perte de sang, ça soit dans la Bible, c'est pour nous encourager. Moi aussi, je veux le toucher. Alors, on ferme les yeux quelques instants. Dieu a vu vos cœurs pendant cette réunion. Et il est certain. Et il est certain que Dieu ne se moque pas. Il ne s'est pas moqué du pharisien. Il aurait pu dire, mon pauvre hypocrite. Il aurait pu le rabaisser comme il pourrait le faire avec nous. Mais il ne le fera pas. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous bénir. Et aujourd'hui, il n'a pas changé. On le lit souvent, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, ça veut dire que ce qu'il a fait dans la vie de cette femme, je peux le vivre ce soir, tout à l'heure, dans ma chambre, seul, dans mon studio, là, peut-être à genoux, assis sous mon lit, dans ma couette, je ne sais rien, qu'importe. C'est surtout le cœur que lui regarde. Et quelqu'un va dire, mais moi je veux te toucher, Seigneur. Vous allez peut-être prier une heure sans prononcer un mot. Mais vous savez, on a un Dieu grand. Quand Ésaïe prophétise, il dit, voilà comment vous l'appellerez, le Tout-Puissant. Que son nom soit béni. On va prier quelques instants, on va le remercier. On va le remercier. Vous êtes d'accord, frères et sœurs, qu'on le remercie? Tous ensemble? Oui, Seigneur, merci. Notre Père, tu nous as laissé ta parole et nous la considérons vraiment comme le pain béni du ciel. Tu as voulu que nous sachions, oui, que tu entends nos larmes, ce qu'elles représentent. Merci Seigneur. Tu as laissé ces histoires dans ton saint livre pour que nous puissions reproduire la même expérience. Puisque tu dis que par la foi et la persévérance, on peut imiter ce qui hérite les promesses. Tu nous as accordé cette grâce de pouvoir venir ce soir dans ce petit temple. Merci Seigneur. Merci pour les cantiques. Merci pour la parole. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour les moyens qui nous permettent de nous déplacer. Merci pour ta parole, oui. Oui, tu regardes au cœur. Et Seigneur, je te prie de reproduire la même expérience dans le cœur de ceux qui ce soir veulent à leur tour te toucher, dans les vies desquelles tu vas t'arrêter. Vraiment, Seigneur Jésus, nous te remercions. Oui, délivre-nous de la sincérité religieuse et amène-nous dans l'amour de la vérité, afin que nous ne passions pas à côté de la bonté de l'Éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.